Attention, l'œuvre que vous allez entendre est immorale et peut choquer les personnes de tout âge. Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Il cherche à pleuvoir, mais le vent l'en empêche. Le ciel est gris, plein de gros nuages gris que l'on voit se déplacer. Il fait sombre dans les rues de Paris, sombre et gris. Le vent fait voler les feuilles d'automne et les détritus. Il y a peu de circulation. Les voitures, pour la plupart délabrées, restent en stationnement. La chaussée est défoncée de trous de cul-de-sac. Les poubelles débordent sur les trottoirs et les immeubles, leurs façades sont sales et très dégradées. Il y a peu de gens dans les rues. Ils marchent vite en luttant et en se protégeant du vent qui est fort et froid. Les gens, des silhouettes grises et tristes, habillés comme en hiver. En ce mois de novembre, Paris est un décor en noir et blanc. Une femme, malgré le vent, marche d'un bon pas, est habillée d'un manteau, d'un petit chapeau, les cheveux gris en chignon, porte des gants et un sac à main. Ses vêtements, ses gants et son sac à main sont noirs. Elle est habillée entièrement en noir. Cette femme est grande, maigre et semble vieille. Le visage est sec et dur. À un tournant, elle ralentit le pas, semble troublée et émue. Elle arrive devant une vieille église coincée entre deux immeubles. Elle n'est pas très grande, être du 18e, des escaliers même à l'entrée. Amélie va rentrer dans la petite église par la porte de gauche. Il y fait très sombre. L'odeur de cierge et d'encens. On entend le bruit d'une messe basse. Elle se trouve face au bénitier, prend de l'eau bénite. Il ne fait pas froid. Il y a foule, des gens debout devant leurs chaises. Amélie a des difficultés à voir, car seuls les vitraux apporte la lumière. Une petite lumière et des cierges éclairent aussi. Elle marche au centre pour chercher une place. Ses pas résonnent. Elle en est gênée. Elle regarde et voit que toutes les places sont prises. En avançant, elle n'ose pas regarder l'autel. Droite, vers le milieu de l'église, elle voit une place de libre dans une travée. Elle y va. La place est au milieu de la travée. Ce n'est pas facile de se faufiler au milieu des gens. Elle y est. Elle ne voit pas devant elle. Les gens debout la dépassent. Regarde à côté d'elle et voit qu'elle a à sa gauche un homme, un vieil homme tout ridé, cheveux gris, manteau gris. À sa droite se trouve une femme. Elle est habillée tout de noir, des pieds à la tête, manteau qui recouvre une robe. Grande robe noire, sac à main. Elle porte sur la tête un voile qui lui recouvre le visage. On ne voit pas son visage. Amélie se dit que ce doit être une veuve. Amélie ne prie pas. Elle cherche à voir et ne voit rien. Cela l'attriste beaucoup. Elle est venue voir. Elle se dit, j'aimerais bien savoir tout de même où elle se trouve. Mais elle a beau se pencher, se soulever. Elle arrive juste à voir à peine une partie de l'autel avec un bout de prêtre. Elle soupire et se dit, peut-être, si je savais où se trouve. Où elle se trouve, j'irai la voir. Je saurai où elle sait, où elle est. Elle se penche et voit la femme et lui demande, « Pardon, madame, pouvez-vous me dire où est la sainte ?» La femme lui dit, « Elle est au pied de l'autel, dans le catafalque. » C'est la première fois que vous venez, madame ?
Oui, madame.
Elle se penche un peu, plus Amélie, et voit le catafalque de la sainte. Puis se penche vers la femme et lui demande.
« Vous venez souvent, madame ?»«
Oui, j'y vais tous les jours. » Et Amélie voit un rayon de lumière qui éclaire le visage. Et à travers le voile, elle voit le plus beau visage qui soit. Elle en est éblouie.
Il faut y venir souvent, madame.
La messe est finie. La femme se faufile et s'éloigne en s'enfonçant dans la foule. Amélie ne la voit plus. Elle est emportée par la foule qui la pousse à l'extérieur de l'église. Cette femme si belle, habillée de noir, lui a fait un effet extraordinaire. Elle aimerait la revoir, mais elle a disparu dans la foule. Juste avant de sortir de l'église, elle se souvient, se retourne et dit
« Mon Dieu, délivré de ses souffrances, Monsieur Henri, merci. »
Elle se retrouve dehors au milieu du vent et des gens qui s'éloignent en courant. Amélie s'en retourne, toute retournée par la femme qu'elle a vue. Elle est allée dans cette église parce qu'une voyante lui avait demandé si elle croyait en Dieu et qu'elle était d'une très grande beauté, bonté, et qu'il fallait absolument aller dans cette église. Amélie ne connaissait pas cette église. Elle est allée, et avant d'y aller, elle a dit à ses voisins de palier, de vieux couples dont le mari est très malade et souffre beaucoup. Elle lui a coupé une jambe gangrénée. Elle leur a dit qu'elle prierait pour le malade, pour que Dieu le soulage de ses souffrances. Elle n'y a pensé qu'à la dernière minute. Il est vrai qu'elle est arrivée en retard à l'église. Qu'elle ne connaissait pas ce quartier. Et puis, cette foule dans l'église et cette belle femme. La femme lui a bien dit qu'elle y venait tous les jours. Elle a bien envie d'y retourner pour la revoir. Elle est éblouie par cette femme, attirée par sa beauté et cette chose indéfinissable qu'elle a, qui l'entoure.
Après une demi-heure de marche, dans ce Paris lugubre, encore plus lugubre que tout à l'heure, parce que la nuit commence à tomber, le vent est toujours aussi fort, et fait froid, parce qu'il traverse les vêtements. Elle aurait dû prendre la voiture pour y aller, mais non, elle voulait que ce soit comme une espèce de pèlerinage à travers Paris. Elle fait ça pour ses voisins. Donc, après une demi-heure de marche, elle arrive à son immeuble. Un vieil immeuble du 19e, dans l'île Saint-Louis. Un immeuble de 5 étages, façade sculptée. Allée de marbre, 30 escaliers, lustre cristal, ascenseur à l'ancienne, avec bien entendu escalier de service. Amélie Borch habite avec son mari un dernier étage. Elle va prendre l'ascenseur. Arrivée à son étage, il y a deux portes d'appartement. Elle va sonner à la porte de gauche, c'est celle de ses voisins. La porte est ouverte, une femme maigre, habillée d'une robe noire. Elle est brune. Amélie lui dit, je suis venue et j'ai demandé à Dieu à ce que votre mari soit délivré de ses souffrances. La femme lui dit, il vient de mourir il y a une demi-heure.
La femme prend dans ses bras Amélie et l'embrasse.
Amélie va tous les jours à la petite église. Elle n'a jamais revu la belle femme en noir. Elle y va à des heures différentes. Elle s'est renseignée. Rien. Alors elle se dit que ça devrait être une apparition.
Thank you.
Dans la gare du petit village de Saint-Servin, dans la Haute-Loire, se trouve un homme dans les 50 ans, grand, maigre, cheveux avec des moustaches, lunettes métal, yeux bleus profonds, habillé d'un costume de tuiles de gris. Dans le hall de cette petite gare, il est venu seul plutôt. C'est Auguste Bosch. Le train est arrivé. Il en sort quelques voyageurs. Auguste reconnaît son fils et va au-devant de lui. C'est Pierre Bosch. Jeune homme dans les 24 ans, grand, mince, châtain, fine moustache, il fait très distingué, habillé d'un costume gris clair et à la main une mallette en cuir. Bonjour père.
Bonjour.
Il s'embrasse. Le père lui demande.
T'as fait bon voyage?
Oui, assez. Mais j'aurais aimé s'y rester à Paris. Pourquoi me faire venir ici? Auguste lui dit.
C'est une idée de ta mère. Elle veut organiser une fête. Et puis tu sais très bien, c'est que nous prenons toujours nos vacances ici.
Bonjour. Pierre soupire. Le père, il prend sa mallette et ils vont vers la sortie de la gare.
Un héritage. Oh, mais alors ce serait moins triste. Tu permettais? Mais dis-moi, elle est merveilleuse.
De l'or, le ciel est bleu, nous sommes en juillet. Il se retrouve sur la place de la gare avec ses platanes. Et tout autour de la gare, il y a des magasins, cafés et hôtels de la gare. Le village est plutôt un petit bourg. Auguste conduit son fils vers sa voiture. C'est une Ferrari rouge décapotable. Pour les vacances, il se sert de cette voiture pour faire plus décontracté. Ils vont rentrer dans la voiture. Auguste a mis la voiture en route. La famille Bosch habite un château en dehors du bourg, sur une petite hauteur qui domine la Loire. Le château est une vieille bâtisse construite au XVIIe siècle que les Bosch ont acheté à un noble ruiné. Le château se trouve au fond d'un parc rocailleux et boisé. La façade du château est une grosse masse noire qui a deux tours de chaque côté. Il y a trois étages, un perron devant l'entrée en sol gravier. L'intérieur du château est sombre, de grandes pièces noires avec de gros meubles épais. Un grand escalier de pierre mène aux étages. Lorsque Pierre, dans la voiture, voit apparaître le château, ça lui paraît étrange. Après l'Amérique, il a l'impression de se trouver dans un autre monde. Et au fur et à mesure que cette masse s'approche de lui, il a l'impression qu'il va étouffer. La voiture s'est arrêtée devant l'entrée. Un domestique qui les attendait, un homme de 40 ans, grand, mince, cheveux châtain, leur ouvre les portières. Il prend la mallette à Pierre. Ils vont vers Amélie qui est devant l'entrée en robe blanche.
Elle sourit à son fils.
Bonjour, mère.
Elle le prend dans ses bras.
Tu as fait bon voyage?
Oui, excellent, sauf pour le train, où il y avait un espèce de fou farfelu qui était chanteur de négro spiritual, un dénommé Pierre Max. Il m'a saoulé de parole. Elle lui demande,
tu as faim?
Non, j'ai besoin, c'est d'un bon bain.
Et ils entrent ou dans le château.
Amélie lui dit, va dans ta chambre te reposer.
Il embrasse sa mère et monte à l'étage avec le domestique qui porte la mallette.
Ta chambre est au deuxième étage.
Arrivé au deuxième étage, il longe un couloir sombre avec des portes d'un côté et de l'autre des fenêtres qui donnent sur le parc et des prairies.
Sa chambre est la troisième pièce. Il ouvre la porte. Et entre.
La pièce baigne de soleil. Meublé avec de gros meubles en chêne style Louis XIV. Il y a une cheminée. La tapisserie est beige défraîchie. La chambre communique à la salle de bain moderne en marbre vert. Pierre est surpris de se retrouver ici. Il est heureux d'être entouré de meubles, de vrais meubles, anciens et non de tocs comme en Amérique.
Qu'il ait pris sa douche, reposé un peu, il descend retrouver ses parents au petit salon du premier étage.
Ses parents sont assis dans des fauteuils près d'une table basse. Il va vers eux et s'assoit près d'eux dans un fauteuil. Sa mère lui demande
« Tu te sens mieux ?»«
Oui, mère, ça va. »
Son père lui demande
« Tu veux boire quelque chose ?»«
Oui, un bonbon. » La mère appuie sur la sonnette qui est sur la table pour faire venir le domestique.
Pierre se dit, comme c'est facile de retrouver ses anciennes habitudes. C'est comme si je n'étais pas parti.
Sa mère lui dit,
j'ai préparé une petite fête pour fêter ton retour.
Pierre soupire et dit, mais il ne fallait pas. L'Amérique, ce n'est pas loin. C'est pas le bout du monde à notre époque. Elle lui dit,
mais si, mon chéri, surtout ici.
Son père lui dit,
tu leur raconteras ton séjour.
Je n'ai rien à nous dire. Tu sais, là-bas, c'est ici. Et puis, c'est toujours pareil. La misère, La misère est partout. C'est mondial. On frappe à la porte. La mère fait
« Entrez !»
C'est la bonne, une petite blonde.
« Apportez-nous du bonbon, s'il vous plaît.
Bien, madame. »
La bonne se retire. Amélie dit à son fils.
« Et puis, cette soirée te permettra peut-être de faire des connaissances. »
Pierre demande. « C'est pourquoi cette soirée ?»«
C'est comme ça. »
Et... Bon, ma foi. Elle lui fait.
C'est pour demain, la soirée.
Il fait.
Oh,
mon Dieu.
À arriver. Ils sont tous des amis de la famille et comme ils viennent d'un peu partout, on est obligé de les héberger. Ils viennent en voiture, on va les chercher à la gare. Pierre aimerait être au diable. Il déteste tout ça. Et en plus, il est le centre de la fête. En fait, cette soirée, c'est deux journées d'invitation, car le lendemain, il faudra les garder. Ils ne pourront pas repartir comme ça après une nuit de fête. Les chambres sont préparées et on a amené les invités dans nos chambres dès leur arrivée. Les boches, pour leurs affaires, ont beaucoup d'amis. Ils sont dans l'immobilier. Des immeubles un peu de partout, à Paris et ailleurs, des terrains aussi, et des hôtels de luxe. Leur métier est de vivre de leur propriété, plus simple que d'avoir des entreprises et du personnel. Les hôtels sont mis sous gérance. Se contentent de recevoir chaque mois leur loyer et une part du bénéfice. Pierre, on lui a fait apprendre un métier. On ne sait jamais si ça peut servir. La biotech, c'est pour ça qu'il est parti en Amérique. Et puis, avec ce métier, ça peut lui permettre de rentrer dans le groupe le plus puissant du monde, qui est le premier constructeur du monde. Mais on ne veut pas en faire un maçon ou autre. Comme le groupe s'occupe de biotech, on lui a fait apprendre la biotech.
Pierre reste enfermé dans sa chambre. Il se dit qu'il sera bien temps d'en sortir ce soir. Tous ces gens qu'il ne connaît pas lui font un peu peur. Il est allongé, tout habillé sur son lit, à essayer de se détendre. Mais c'est pas facile lorsque l'on sait qu'on va être envahi par des étrangers. On a frappé à la porte. Il soupire et fait.
Oui ?
C'est moi.
C'est sa mère.
Tu viens, je te présente à des amis.
Mes mères.
C'est pour toi qu'ils sont venus. Et si tu ne viens pas, ce sera très impoli.
Alors, il se lève et va ouvrir la porte de la chambre.
Sa mère le prend à la main et lui dit
« Viens, ne fais pas cette tête !»
Et il suit sa mère.
Dans les escaliers, le couloir, il rencontre des gens. La mère leur dit, leur présente Pierre.
Mon fils,
une grande dame à tête de cheval, à robe verte, le regarde bien et lui dit,
comme il est mignon, c'est vraiment un beau garçon. J'ai à Lyon le fils d'une de mes amies, il s'appelle Jacques. Et à votre âge, elle soupire et dit, à votre âge, c'est vraiment bien.
Elle regarde le bas-ventre de Pierre et soupire, puis s'éloigne. La mère fait.
Une originale, très originale.
Arrivé au rez-de-chaussée, Amélie voit arriver à elle trois personnes. Un homme gros et grand, cheveux gris, costume beige. Une femme mince, blonde, robe rose et une jeune fille dans les 20 ans, blonde, visage triste. Elle porte une robe bleue pâle. Amélie leur dit
« Comme je suis heureuse que vous soyez venue !»
La femme lui dit «
C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Et votre fils, c'est celui-là ? » ?»«
Oui. »
La femme fait
« Charmant jeune homme !»
L'homme demande
« Et que fait-il ?»
Amélie lui dit
« Il a fait ses études en biotech. »
Pierre s'en lui ferme et se dit qu'on le prend pour un objet. Amélie demande «
Et votre fille ? »
La femme lui dit.
Elle est très sage et a des goûts très simples.
L'homme dit.
C'est un ange.
La jeune fille est toute rouge. Amélie dit à Pierre.
Tu entends, Pierre ?
Pierre se dit que ça doit être une fille à marier. Pauvre fille. Elle doit être constamment surveillée. Ils veulent la caser dans une bonne famille. Parce qu'elle va hériter de la fortune du père. Ah ! À moins que ma mère... Enfin, ma mère va certainement vouloir me la donner, cette fille. Certainement pour que je puisse anoblir son nom. Enfin, c'est comme ça. Mais notre famille n'est qu'une famille de bourgeois.
Pierre,
il sursaute et va vers sa mère qui vient de parler.
Qu'est-ce que tu fais ? Viens, montre le jardin, mademoiselle Françoise de Saint-Pierre.
Fier, Pierre de mauvaise grâce s'approche de la jeune fille.
Mademoiselle, vous voulez bien me suivre ?
Elle lui sourit et le suit. Pierre entend derrière lui sa mère dire
« Ils forment un très joli couple !»
Il se dit. Il nous voit déjà mariés. Il est furieux.
Yeah.
une fois dehors, il voit qu'il y a encore des voitures qui arrivent et en descendent des invités. Pierre se dit, ma mère a invité combien de personnes?
La fille lui demande,
vous n'aimez pas les fêtes? Oh non, et vous?
Moi non plus,
je suis obligé de faire tout ce que me demandent mes parents. Pourquoi vous êtes obligé?
Elle lui dit.
Parce que je ne suis pas majeur. Mais il faudra bien qu'un jour ou l'autre ça change. Et vous, vous êtes majeur?
Il lui dit.
Moi? Oui, mais c'est la même chose. Je n'ai rien à moi. Et si je ne fais pas ce qu'ils me demandent, j'ai plus rien. Parce qu'ils ont tout, eux. Il lui dit. Mais maintenant, ça va changer. Vous allez être plus indépendant. Et il s'éloigne du château et des invités. Il marche sur un petit chemin qui mène à un bosquet d'arbres. Elle se dit qu'elle n'est pas si bête que ça. Il lui dit, vous savez que l'on veut que l'on fasse connaissance. Françoise sourit et lui dit, mais ne vous faites pas de soucis, je n'ai pas dit que je vous trouvais à mon goût. Pierre lui dit, moi non plus. Elle lui dit, alors soyons bons amis. Il lui demande, et que dira votre famille? Elle lui dit, ils me présenteront d'autres personnes. De toute façon, je n'ai pas du tout l'intention de me marier. Amélie, qui les regarde d'une fenêtre du château, se dit
« Voilà, chose est faite. Les personnes comme il faut savent se connaître, se reconnaître et s'unir. »
Tous les invités sont arrivés. On leur a fait un déjeuner, puis on les a menés se reposer pour la soirée dans leur chambre. Après la promenade dans le parc avec Françoise, Pierre est resté dans sa chambre. Il a même déjeuné dans sa chambre. La soirée commence vers les 21h30. Les pièces du rez-de-chaussée ont été mises en enfilade. Orchestre, buffet, parc illuminé. Les invités sortent de leur chambre
en tenue de soirée. Pierre sort de sa chambre à 22h. Au rez-de-chaussée, il trouve une foule, une immense foule qui rit, qui danse, qui crie. Il se dit, ma mère est folle. Lorsqu'il arrive, son père se met à crier, voilà mon fils, il revient d'Amérique, il a fini ses études là-bas. Un homme s'approche d'eux, il est grand. Cheveux blonds, smoking noir. Il dit à Pierre, « Félicitations, jeune homme. Merci. Et quelles études avez-vous faites ?»« La biotech. C'est très bien, un métier d'avenir. Mais pourquoi ?»« Avoir fait ses études en Amérique, la France est tout aussi forte dans ce domaine. » Auguste lui dit, « Mais c'est les jeunes en France. » qu'ils font de la politique au lieu d'étudier et empêchent les autres d'étudier, mon fils. Au milieu de ces jeunes-là n'auraient pas pu étudier, n'auraient pas pu travailler comme il faut. Nous vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.